Et dialogue entre Congolais avec Alain Ring de la présentation.
Bonsoir, le ministre des Finances du gouvernement central dénonce la fraude qui s'opère au poste frontalier de Kasumba Leta dans la province du Katanga et qualifie la situation de la douane de désastreuse. Quelle analyse faire du constat du ministre des Finances? Quelle est la situation dans les grands postes douaniers du pays? Nos invités dans cet échange sont Gabriel Mouefou, conseiller chargé de la mobilisation des recettes du ministère des Finances. Bonsoir, monsieur le conseiller.
Bonsoir.
Tatine Sungani, analyste socio-économique et ancien président de la délégation syndicale de la Direction générale des douanes et accises, DGDA, l'ex-OFIDA. Bonsoir, Tatine.
Bonsoir, Alain.
Oscar Chidiatida, président de la Ligue contre la corruption et la fraude, l'ICOF, lui est en ligne. Bonsoir, monsieur Akida.
Bonsoir.
Vous êtes également très nombreux à réagir, vous, chers auditeurs, notamment Dr. Dani Kalala du Grand Bassin au Libéria qui dit « Je pense que stopper la fraude à la base implique l'absence de la fraude au sommet des différentes structures du pays. Sinon, c'est la mascarade et l'hypocrisie. Je me demande quelles sont les mesures disciplinaires à l'égard de ces fraudeurs. » Chikala Ilunga de Londres en Grande-Bretagne, je félicite le ministre des Finances qui a eu le courage de dénoncer un phénomène qui existe depuis des années et que tout le monde connaît. Néanmoins, il ne s'arrête pas seulement au cas de l'Opila Kasumba Leta qui n'a qu'une goutte d'eau dans la mer, de la fraude et la corruption qui gangrènent tous les secteurs de la vie nationale. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Ce n'est un secret pour personne. La fraude qui s'opère au poste frontalier de Kasumba Leta au Katanga est généralisée et la situation de la douane est désastreuse. Déclaration faite à Radio Okapi par le ministre des Finances qui a visité jeudi dernier ce poste situé à 90 km de Lubumbashi. Matata Ponyo pense que les recettes provenant de ce poste doivent être triplées. Profitant de son séjour dans la capitale cuprifère, le ministre des Finances a aussi procédé au lancement officiel du pacte de doublement des recettes portant sur la maximisation des recettes publiques. Matata Ponyo est au micro de Colin Djoumamoussompo.
Au Katanga, la douane est poreuse. Il y a des fraudes massives qui s'opèrent au niveau de la douane. Ce n'est plus des informations propres aux initiés, mais il semble que c'est devenu une information générale et généralisée. Tout le monde sait qu'au niveau de la douane, à Kasumba Leta, il y a des problèmes sérieux. Quand vous regardez le volume d'activité ici au Katanga, où tout le monde est devenu fraudeur pratiquement, tout le monde sait qu'on importe du sucre, mais on fait des douanes comme du sucre. Tout le monde sait qu'on importe des carburants pour les produits miniers qu'on les utilise sur le marché local en concurrence déloyale avec ceux qui importent. Tout le monde sait qu'il y a des camions avec des conteneurs qui restent à la frontière pendant les jours et qui disparaissent la nuit. Il faut tripler les recettes et ça c'est immédiat.
Monsieur le conseiller Gabriel Mouefou, vous êtes chargé de la mobilisation des recettes au ministère des Finances. Le ton du ministre, on l'a suivi, est très fort. Hein, mais en quoi cette dénonciation est une nouveauté?
Bon, je pense que c'est une nouveauté dans ce sens que cette dénonciation s'inscrit dans le cadre de la démarche actuelle du gouvernement. Comme vous le savez, au niveau du gouvernement, le ministère des Finances a signé le pacte de doublement des recettes avec la régie financière. Et donc, il a été question pour le ministre, n'est-ce pas, de visiter les services sur le terrain, les inspecter, mais aussi vulgariser le pacte de doublement des recettes. Et comme vous le savez, à cette occasion, le ministre a pu constater qu'en dépit des arguments donnés par les autorités de l'OFIDA, s'agissant de la mobilisation des recettes, comme vous le savez, ces derniers mois, on a enregistré des contrôles performance au niveau de l'OFIDA, et ces contrôles performance étaient essentiellement justifiés par le fait qu'il y a une baisse du tonnage importé. Mais cette explication du ministre a, disons, cette dénonciation a été faite justement pour démontrer qu'il y a possibilité quand bien même il y a eu une baisse de, disons, du volume des importations, il y a possibilité de faire plus. Il y a possibilité de réaliser ce qui est prévu dans le pacte des éléments de recettes.
Alors, il y a un auditeur que nous avons cité dans l'introduction de cette émission qui a demandé qu'est-ce qui a été fait à ces douaniers, le ministre, après avoir constaté la fraude, qu'a-t-il fait?
Naturellement, quand le ministre s'est rendu à Lubumbashi, il a été précédé par le chargé de mission adjoint de la DGDA, l'ex-Sida, et le responsable de la DGDA a reçu des rapports. Des rapports qui faisaient état, justement, de la disparition de plusieurs camions entre Kasumbalesa et Lubumbashi, mais aussi des rapports qui faisaient état des sorties de marchandises des entrepôts de Lubumbashi sans paiement. Tout naturellement, quand le ministre a pris connaissance de ces éléments, il a demandé que des mesures conservatoires soient prises. En l'occurrence, ici, il s'agissait de prendre, n'est-ce pas, des mesures, des suspensions pour besoin d'enquête. Et donc, il y a eu 13 cadres, disons, à Kasumbalesa et à Lubumbashi, qui ont été suspendus pour besoin d'enquête.
Oscar Rachidi Akida, président de la Ligue contre la corruption et la fraude, LICOF, comment vous avez reçu cette dénonciation du ministre des Finances?
Merci beaucoup pour la question. Je crois que la visite du ministre Madame Taponi à Lubumbashi a été appréciée à sa juste valeur par tous les membres de la LICOF, surtout sur son diagnostic qui a été sans complaisance lorsqu'il a parlé d'une fraude scandaleuse dans nos postes frontaliers, non seulement de précisément d'abord pour Kasumbalesa, et là je préciserai que même dans les autres postes frontaliers qui sont disséminés à travers le pays. Mais en ce qui concerne le cas précis de Kasumbalesa, nous avons apprécié, n'est-ce pas, cette dénonciation, mais malheureusement pour nous, nous voyons que tous les ministres qui se sont succédés ont toujours déploré, n'est-ce pas, la fraude. Parce que la LICOF a toujours publié, n'est-ce pas, dans ses communiqués de presse, toutes ces fraudes qui se passent au niveau de Kasumbalesa. Je vous dirai tout de suite qu'il y a une mafia bien organisée, non seulement par les commerçants, mais bien sûr par toutes les autorités, par certaines autorités politico-administratives. Non seulement elles, mais il y a des autorités militaires, des policiers, des éléments de renseignement, donc ANR, tous les autres services qui sont basés à Kasumbalesa. Donc je vous dirai tout de suite là que nous apprécions cette dénonciation, mais il faut aller loin. On ne peut pas seulement dénoncer, on ne peut pas seulement suspendre, parce qu'on sait qu'après la suspension, pour une période donnée, et ces gens-là risquent d'être réhabilités, mais il faut prendre des mesures drastiques pour aller loin avec ces genre de mesures. Bon, nous espérons que, comme c'est un nouveau ministre qui a une autre vision, n'est-ce pas, de faire bien les choses, nous espérons qu'il fera quelque chose qui peut intéresser la population. Mais pour nous, nous restons sceptiques, parce que c'est toujours la dénonciation, on se limite là-bas, on filme, on publie, on va faire tolérance zéro, mais ceux qui sont punis, ce sont les petits. Mais cette fraude est organisée par qui? Par les gros poissons qu'on connaît bien, les autorités politiques, les autorités militaires, les responsables des services de renseignement, qui font passer des tonnes de marchandises, des camions. Mais alors, ils ne sont pas, n'est-ce pas, inquiétés, ils sont là. Alors, nous sommes sceptiques, monsieur, quant à cette dénonciation.
Merci, Tatine Songani, vous êtes analyste socio-économique et ancien président de la délégation syndicale de la DGDA, l'ex-OFIDA. Quelle est votre analyse à ce niveau?
Oui, Alain, merci pour l'invitation. Je vais directement répondre à votre question. La tournée qu'a effectuée le ministre des Finances, par ailleurs, quelqu'un que je connais bien et dont j'apprécie, dont j'estime l'intelligence et l'efficacité. Donc, je disais, la tournée qu'a effectuée le ministre des Finances ainsi que le constat qui a été qui a découlé donc de cette tournée. C'est un non-événement. Excusez-moi d'être peut-être un peu direct, parce que tous les ministres des Finances qui se sont succédés, comme l'a si bien dit mon prédécesseur, ont toujours fait le même constat. Donc ils font les mêmes tournées d'inspection, et les mêmes missions, les mêmes visites. Même le très controversé ministre Matenda a effectué aussi des tournées d'inspection avec les mêmes constats. Et tous, de façon unanime, ont fait les mêmes constats. Mais comme l'a dit toujours mon prédécesseur, on ne voit rien. En réalité, il faut signaler quand même que la fraude, c'est est une des antivaleurs qui gangrènent l'ensemble du pays, en commençant par l'appareil de l'État et en passant par les services ainsi que les institutions du pays. Aucune institution n'y échappe, du sommet à la base. Et donc cette fraude avec d'autres antivaleurs comme la corruption, la concussion, le détournement, le trafic d'influence, sont donc des maux qui gangrènent ce pays ainsi que ses structures. Mais il faut quand même aussi, avant de sanctionner, poser la question de savoir d'où vient la fraude. Parce que c'est bien de sanctionner. Si chaque fois on doit s'en tenir aux effets, aux conséquences, sans nécessairement circonscrire les causes à l'origine de ce mal, eh bien on aboutira toujours au même résultat.
Et vous êtes un douanier de formation, d'où vient la fraude ?
La fraude à l'OFID, à la Direction Générale des Douanes, excusez-moi, ainsi que dans les régies financières, n'est qu'une conséquence de la fraude qui se pratique au sommet de l'État. Excusez-moi de le dire, parce que si le douanier fraude, en général, il fraude avec la bénédiction, non seulement de ses chefs directs, mais aussi de certaines autorités de proximité, parfois même des autorités centrales du pays. Vous constaterez d'ailleurs avec moi, je ne vais pas citer de nom ici, mais la Direction Générale des Douanes est assise à opérer dernièrement un petit réaménagement technique d'un certain nombre de cadres dans certains postes stratégiques. Mais malheureusement, les personnes qui ont été permutées sont les personnes qui sont justement citées comme étant les grands fraudeurs avec la bénédiction de l'État congolais. Et je voudrais quand même dire que ce qui est décevant, c'est que, comme l'a encore une fois dit mon prédécesseur, ceux qu'on frappe, mais ce sont les plus faibles, ce sont les petits, les gros poissons qui ont beaucoup d'argent, qui sont bourrés de moyens. Ils corrompent tout le monde du sommet à la base. Et je dirais même que leurs activités sont parrainées, permettez-moi de mettre cela entre guillemets. Donc je vais aller plus loin. Les raisons, c'est quoi ? C'est simplement la dégradation de l'appareil de l'État. Nous n'avons pas un État au sens propre du terme. Et cette dégradation, me semble-t-il, est une des raisons fondamentales de l'existence persistante de cette fraude. Deuxièmement, c'est le délabrement du tissu social. Écoutez, pour moi, le vrai responsable, si vous voulez, de ce que nous déplorons aujourd'hui, c'est d'abord le gouvernement. Le gouvernement ne prend pas des mesures appropriées pour arrêter de façon, je dirais, brutale ce phénomène. Parce que, je prends un exemple simple, je vais être très très pragmatique. Il y a une dame qui est à Beni, dont je ne citerai pas le nom, qui a reçu du ministère des Hydrocarbures une exemption d'importation des produits pétroliers. C'est-à-dire, cette dame, impunément, importe des produits pétroliers parce que, je dis bien, le ministre des Hydrocarbures, cela est vérifiable, lui a accordé cette exemption. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle importe sans payer les droits, mais elle vend sur le marché de Beni le carburant et les autres produits pétroliers au même prix que les autres importateurs, concurrençant de façon déloyale et illégale les autres importateurs. Donc, et cela est connu. Elle a même obtenu cela avec la bénédiction de l'actuel ministre des Hydrocarbures, qui à l'époque était ministre de l'Intérieur et qui lui avait accordé par le service de renseignement les mêmes avantages. Donc, pour terminer, je voudrais dire ceci. Depuis 5 ans, on attend la réforme du code douanier. Ça traîne. Depuis 4 mois, les douaniers sont impayés. Et ils n'ont ni salaire ni avantage. Mais que pouvez-vous attendre de ces personnes ? Moi, je refuse que l'on coupe la tête des douaniers sans que les autres puissent suivre.
Merci, Tati. Je vous propose de ne pas impliquer des gens qui ne participent pas au débat en les citant. Je préfère que nous puissions nous en tenir strictement à notre sujet de ce soir. Monsieur le conseiller Gabriel Mouépou, vous avez suivi les différentes interventions d'Oscar Rachidi Akida, de Tati Nsungani. Comment vous ramassez ça en bloc ?
Je pense que les différents intervenants, notamment le président Akiva que j'ai salué et Tati Songani, je salue en passant, ont relevé le fait que le gouvernement ne prend pas les mesures appropriées pour lutter contre la fraude. Et là, je peux dire que, contrairement à ce qu'on pense, la démarche qu'a empruntée son Excellence Monsieur le ministre des Finances, c'est une démarche rationnelle. Quand vous êtes une autorité, vous êtes mis au courant des faits aussi graves que ceux qui ont été perpétrés au niveau du Katanga, la première réaction rationnelle, c'est de demander qu'on puisse initier d'abord une enquête et pour déterminer les responsabilités, mais justement en prenant des mesures conservatoires pour les personnes qui semblent être impliquées directement dans la réalisation de cette fraude. À mon humble avis, cette mesure qui a été prise, c'est une mesure rationnelle.
Mais je pense que
le ministre ne s'est pas arrêté là, monsieur Anna. Je voudrais ici renseigner que dans le cadre de sa mission, le ministre est allé aussi vulgariser le pacte. Et le pacte met l'homme au centre de l'action. Comme vous le savez, notre société est aujourd'hui caractérisée par des antivaleurs. Les antivaleurs exigent notamment qu'il y ait des mesures de moralisation, des sensibilisations, mais aussi au même moment qu'on sensibilise, qu'on moralise, il faut renforcer les sanctions positives et négatives. Et je pense que dans le pacte de doublement de recettes, ce sont des mesures qui sont bel et bien prévues. En dehors de cela, en ce qui concerne le cas de Kasumbalesa, il y a notamment, parce que nous parlons des cas de contrebande, des cas de détournement des transferts, il y a des infrastructures que la douane va bientôt inaugurer. C'est le guichet unique de Kasumbalesa. Comme vous le savez, ce guichet unique est doté des entrepôts qui peuvent permettre de faciliter la prise en charge des marchandises au niveau de la frontière de Kasumbalesa. Donc c'est juste à quelques kilomètres de la frontière de Kasumbalesa.
Mais monsieur le président, sans vous arracher la parole,
oui,
parce que vous l'avez toujours, mais que revenons sur les causes de cette fraude. Tati, notamment Rachidi Akida, ont relevé que cette fraude est orchestrée en complicité avec les autorités politico-administratives, voire même policières et militaires.
Mais justement, parce que vous m'avez la parole, j'étais en train de donner les éléments des mesures, n'est-ce pas, qui peuvent permettre de combattre durablement la fraude. En ce qui concerne la moralisation, je parle de la moralisation, de la sensibilisation. Je voudrais ici annoncer que au début du mois prochain, donc au début du mois de mai, il y aura une vaste campagne de sensibilisation sur le civisme fiscal. Et cette mesure, je crois, cette campagne sera lancée par les autorités du pays au plus haut niveau. C'est pour qu'on essaye d'impliquer toutes les autorités au niveau national dans la lutte contre la fraude et le civisme fiscal. Non seulement qu'il y a cet aspect de campagne de sensibilisation, où d'ailleurs je pense que les médias seront fortement impliqués, je voulais ici noter le fait que comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'est l'homme qui est au centre du pacte de doublement de recettes. Quelles sont les mesures qui ont été prises au niveau du pacte, qui sont prévues dans le cadre du pacte de doublement de recettes? Il y a notamment le fait que on prévoit que désormais, contrairement à ce qu'a dit M. Songani, désormais on doit payer régulièrement les agents de régie financière.
Et avant, vous le savez, ils n'ont pas d'arriéré.
Bon, évidemment. Le gouvernement, quand on arrive au gouvernement, on assume et les passifs et l'actif, il y a des arriérés, mais je crois que son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, à peine arrivé au ministère des Finances, deux semaines après, il a payé déjà un mois d'arriéré et il s'est organisé pour payer à l'échéance le mois de mars. Et donc, là, au moment où nous parlons, avant que je ne vienne ici, on était en séance de travail avec les syndicalistes pour essayer d'arrêter un échéancier de manière à nous permettre à pouvoir apurer tous les arriérés. Donc, vous voyez que la volonté pour résoudre ce problème des paiements irréguliers des agents de régie financière est là.
Voilà, monsieur le conseiller, mais jusqu'à un certain moment, il y avait des partenariats tels que DGDA, CTC, DGDA, BIVAT, pour essayer de contrer toute cette fraude. Quels sont devenus ces partenariats, très brièvement?
Bien, en ce qui concerne le partenariat BIVAC-DGDA, le partenariat se porte assez bien. Comme vous le savez, actuellement, BIVAC aide la douane à pouvoir à disposer des informations sur la valeur en douane. Comme vous le savez, dans notre pays, c'est la fraude sur la valeur en douane qui est la fraude la plus régulière et la plus courante. Actuellement, BIVAC permet, notamment à l'Ouest, de couvrir 80% des importations par des attestations de vérification. En ce qui concerne le CTC, évidemment, CTC est actuellement en négociation avec le gouvernement pour la poursuite de son assistance technique, étant donné qu'il a connu des difficultés dans le paiement de ses prestations. Donc, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que la douane, le Congolais, ça c'est quand même aussi important que nous puissions le souligner, que le Congolais, même sans l'assistance extérieure, les Congolais peuvent faire de bonnes choses. Parce que dans le cadre du pacte de doublement de recettes, par exemple, nous avons noté que la DGI et la DGRAT, sans des partenariats avec les maisons extérieures, ont réalisé des performances qui sont tout à fait encourageantes.
Oscar Rachidi Akida, vous venez de suivre le Gabriel Mwepu, conseiller au ministère des Finances, chargé de la mobilisation des recettes. Comment vous analysez ces propos?
Bon, je crois que j'apprécie bien ces propos, mais je pense que ce sont les mêmes propos qui ont toujours été prononcés par les autorités, n'est-ce pas, politiques. Je vous dirais tout de suite, sans me contredire, que ce sont des verbiages, ce sont des propos politiques purement qui vont être classés après, qui terminent avec vous. Je pense que d'ailleurs, si effectivement l'État prenait ses responsabilités, certains responsables, n'est-ce pas, devraient être en prison. Parce que il y a autant d'émissions et ces conseillers-là de ces ministères viennent ici, soit au Katanga, soit dans les deux Kivus, pour faire les mêmes missions. Mais qu'est-ce qu'on constate? Ce sont ces mêmes conseillers qui ont toujours été corrompus. Je ne peux pas avoir peur, n'est-ce pas, de dénoncer cela. Ce sont ces conseillers qui ont toujours été corrompus. Est-ce qu'ils ont déjà donné des rapports fiables? Ils trouvent certaines réalités sur le terrain, mais quand ils arrivent à Kinshasa, ils falsifient les rapports, ils donnent autre chose. Malgré qu'ils vont prendre certains petits rapports, dire que c'est tel qui a fait ça, il faut prendre telle mesure, après, il n'y a rien de concret, mon frère. Donc, nous sommes déçus, parce que si ce pays se trouve au niveau où il se trouve aujourd'hui, je crois que ces conseillers-là sont plus responsables. Et même les ministres, on va dire que bon, il y a tel qui arrive, il y aura un changement. Bon, combien de fois on a changé de ministre? Combien de fois on a changé de conseiller, de spécialiste, de docteur en ces sciences-là? Il n'y a rien. Bon, c'est de la bouillabaisse, je crois, monsieur le journaliste.
Alors, au niveau de la DICOF, vous avez mené plusieurs enquêtes, notamment en ce qui concerne la fraude douanière en République démocratique du Congo. Avez-vous des chiffres précis, des éléments précis à nous donner à cet effet?
Moi, je vous dirais tout de suite ici que nous avons dénoncé, nous avons publié. Je crois que notre État, parfois, je dois dire brutalement que il y a une certaine irresponsabilité des dirigeants. Parce que lorsqu'une ONG donne une information vérifiable, qui est véridique, je crois que l'État devrait se saisir de cette information, au lieu de tracasser ce qu'il publie. Parce que nous, ici, au niveau de la LICOF, nous avons déjà été victimes de beaucoup d'attentats. Pourquoi? Parce que nous avons toujours dénoncé ce genre de choses. Je vous dis ici, pour les cas concrets, il y a eu plus de 300 véhicules qui se sont volatilisés au niveau de la frontière de Kasumba-Lessa. La LICOF avait dénoncé ça. Mais quelle a été la mesure qui a été prise à son temps? Ce n'est qu'après, les gens s'enrichissent. Et après, on vient faire des petites enquêtes pour dire, oh, tel, ceci, on les suspend, des mesures conservatoires, et puis on va les limiter à Bukavu, et ainsi de suite. Bon, nous avons dénoncé, et en fin de compte, nous sommes fatigués, parce que la LICOF, à son niveau, n'a pas une prison,
La LICOP, c'est une ONG qui n'a pas de policiers. Elle se limite au niveau de la dénonciation. Lorsque l'autorité compétente ne parvient pas à prendre des mesures qui s'imposent pour pouvoir éradiquer et la fraude et la corruption, qu'est-ce que vous voulez qu'une ONG puisse faire? Nous avons des chiffres, des statistiques. Il y a même, ici, je vous donne l'information, au niveau du central informatique de l'OFEDA, qui a été bousillé pour faire partir les éléments. Et des millions de dollars se sont volatilisés au niveau de Katanga. Est-ce que l'État a pris des mesures pour pouvoir, n'est-ce pas, identifier les personnes et mettre toutes ces personnes en prison? Rien du tout. Voilà, monsieur. Donc, il y a autant de cas. Et je vous donne encore un autre secret. Il y a des bandes, j'appelle ça bandes, qui se sont déjà partagées. Tel domaine, c'est tel. Il y a des sacs de farine, de manioc, de maïs. Il y a les planches qui sont réservées, n'est-ce pas, à la famille présidentielle. Si vous passez à Kasumbalesa, c'est un domaine réservé. Donc les membres de la famille présidentielle sont responsables de ça. Si vous venez avec les planches, les camions de bois, vous devez aller payer sans quittance, sans rien du tout. On peut vous demander autant et vous payez. Mais avec ça, vous aurez quelles statistiques, monsieur? Donc, c'est de l'argent de l'État qui part comme ça dans les poches des gens. Donc, voilà la situation, monsieur.
Voilà. Tati Nsongani, il y a des auditeurs qui nous écrivent. Honorable Odiane de Kisangani en province orientale, la réaction du ministre des Finances est fondée. Le vrai problème est qu'il y a une complicité entre la douane au niveau des frontières et les responsables de la direction générale à Kinshasa. Nous remarquons que dans cette affaire de fraude, l'État ne joue pas suffisamment son rôle. Séraphin Kongolo de Mbujima et au Kassai oriental, je pense que c'est la bonne politique qui fait les bonnes finances. Guillaume Lebrac-Bert de Mahagui en province orientale, je constate qu'aucune vérification ne se fait sur les douaniers. Il est impossible de comprendre la manière dont les douaniers font pousser des maisons comme des champignons et ne se soucient pas de consigner ces dépenses dans des rapports écrits. Il y a Wabelo de Matadi au Bas-Congo. Je pense que l'État congolais est complice de cette situation des fraudes douanières constatées dans les postes frontaliers. Si l'on voit le train de vie de tous les douaniers, on constate le vol et la fraude. Pour moi, je pense que la solution, c'est le paiement d'un salaire décent à ces personnes commises à ces postes frontaliers. Aussi, l'État doit faire un audit auprès de tous les douaniers de la RDC afin de réduire leur train de vie. Patine Sundani.
Oui, je pense que dans ce qui est dit, certes il y a du vrai, mais il y a aussi beaucoup d'exagération.
Tel que
lorsqu'on dit que les douaniers, les maisons qui poussent, je crois qu'il faut parfois relativiser tout ça. Je voudrais épingler une première chose, c'est que ces auditeurs ont stigmatisé et mis à l'index la responsabilité de l'État de façon générale et du gouvernement en particulier. En ce qui concerne l'enrichissement sans cause, ce n'est pas les douaniers qui détiennent la palme. Allez dans le quartier GB, la plupart des très belles maisons que vous verrez là sont construites par des généraux, des militaires. Et je vous rappelle que le salaire d'un général tourne autour de 60 000 francs congolais. Donc ce n'est pas une particularité des douaniers. Et je peux même vous parler des policiers, je peux vous parler aussi de certains membres du gouvernement qui rentrent dans le gouvernement à pied, locataires, et qui en sortent avec un chariot automobile de 10, 15, 20 véhicules et plusieurs maisons. Donc je crois qu'il ne faudrait pas mettre à l'index simplement les douaniers. Si mal il y a au sein de la douane, il convient, n'est-ce pas, de prendre des mesures appropriées et adéquates pour mettre fin à cela. Mais je crois qu'il a été fait mention ici de sensibilisation et de moralisation. Je pense que s'il faut sensibiliser, moraliser, il faut commencer par les sommets de l'État. Il faut moraliser le collaborateur immédiat du chef de l'État. Je suis douanier. La plupart des injonctions que l'on donne aux douaniers sur le terrain, ça vient du sommet de l'État. Je ne parle pas seulement du chef de l'État ou de son entourage. Je parle du gouvernement, des ministres, des généraux, des membres de la sécurité. Les pauvres douaniers parfois exécutent des mesures contraignantes. Ils n'ont pas souvent le choix. Mais c'est vrai que, comme le dit l'article de la Constitution, qu'il ne faut pas toujours appliquer un ordre manifestement illégal. Mais peut-on reprocher à un douanier d'appliquer une instruction, quand il sait que s'il ne le fait pas, il sera éjecté de son poste et qu'il ne saura pas se contenter d'un salaire minable par ailleurs payé avec beaucoup de retard. Je crois qu'il faut se regarder en face et se dire des vérités. 3-4 mois d'arriéré, je vous informe, le conseil du ministre est là, que le dernier salaire que les doyens perçus pour le mois de mars, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais l'avant-dernier salaire date de quand ? Du mois de novembre 2009, est-ce que cela est acceptable ? Vous ne payez pas un doyen pendant 3, 4, 5, 6 mois, mais vous le reprochez de voler. Et pour terminer, je voudrais dire ceci, c'est que il y a un problème dans notre pays, c'est l'impunité. L'impunité est un véritable problème parce que, comme l'a si bien dit notre ami de la Licorse, tant qu'on ne sanctionne pas correctement, il y a un problème. Vous savez, on a révoqué des délégués syndicaux simplement parce que ils ont fait des grèves, mais on laisse en place des personnes qui détournent, qui s'enrichissent scandaleusement. Fussent-ils douaniers ? Moi, je voudrais mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Même si ce sont les douaniers qui s'enrichissent, eh bien, l'État doit frapper de façon indistincte. Et je termine en disant qu'à l'époque où j'étais président de la délégation syndicale nationale, j'avais proposé à l'autorité de démanteler les réseaux mafieux du Katanga en rapatriant tous les douaniers là-bas, du directeur jusqu'au huissier, et en les déployant sur les autres sites douaniers. Mais malheureusement, ça n'avait pas été suivi. Donc je crois que tout en mettant les responsabilités, il faut quand même relativiser.
Voilà, nous abordons sans transition la deuxième partie de cette émission. Quelle est la situation dans les grands postes douaniers du pays ? Gabriel Mouépou, vous êtes conseiller chargé de la mobilisation des recettes au ministère des Finances. Si à Kasumbalé, ça n'était qu'un exemple, hein, donc dans les autres grands postes frontaliers du pays, ça devrait être la catastrophe, j'imagine.
Bon, je pense qu'il faut relativiser et essayer d'apprécier la situation selon chaque poste frontalier. On ne peut pas dire aujourd'hui que s'il y a des problèmes de fraude massive à Kasumbalé, ça, ailleurs, c'est la catastrophe. Parce que quand nous analysons les statistiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, quand nous travaillons, la douane travaille avec Bivac, on se rend compte par exemple qu'à l'ouest, donc je voudrais parler ici de Matadi, et Kinshasa particulièrement, Bivac déjà arrive à couvrir 80% des importations avec des attestations Bivac. Cela signifie qu'en réalité, la sous-évaluation sur ces importations est minimisée. Donc la fraude en matière de sous-évaluation n'est pas aussi importante. Par contre, quand nous allons à l'est du pays, on se rend compte, par exemple, que le taux de couverture actuellement est encore de 5%. Donc, on peut dire qu'à l'est, la situation en matière de sous-évaluation est probablement plus grave qu'à l'ouest. Ce qui se passe à Kasumbalé, là, je voulais un peu rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que si on a suspendu, d'ailleurs, c'est pour la première fois qu'on suspend comme ça, 13 cadres, c'est pour justement arriver à démanteler les réseaux qui existent à Kasumbalé. Et donc, aujourd'hui, le travail qui a été fait à Kasumbalé, nous ne pouvons pas dire que le ministre va s'arrêter là. Il va le poursuivre dans tous les postes frontaliers. Comme vous le savez, il est question qu'on puisse tripler les recettes non seulement au Katanga, mais aussi au nord, au Sud-Kivu, la province orientale.
Alors, Oscar Rachidi Akida, un mot sur l'état des lieux hein, par rapport au poste frontière, au poste douanier à travers la RDC. Vous avez suivi Gabriel Mouépou pour qui à l'ouest ça va assez mieux qu'à l'est.
Bon, je vais lui dire tout de suite que d'abord du côté Matadi, parce que nous avons notre représentation au niveau du Matadi. Là-bas, il y a beaucoup plus la falsification des documents couvrant les importations, avec comme résultat soit la minoration des quantités de marchandises déclarées, soit leur fausse dénomination, soit encore la non-déclaration tout simplement. Et il y a aussi la déclaration fantaisiste des marchandises non présentes physiquement à la douane. Donc, si lui dit qu'il y a une minoration, ou soit il y a quand même quelque chose de passable, moi je pense que la fraude est toujours là. Elle est là. Moi j'étais à Matadi jusqu'à Boma. Nous avons vu ce qui se passe. Et surtout là-bas, ce sont les grandes autorités politiques, les grandes autorités militaires, je souligne, parce que ce pays nous appartient. Il ne faut pas cajoler quelqu'un lorsqu'on veut manger, n'est-ce pas, une omelette, il faut casser d'abord les yeux. Donc il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc là-bas, ce sont les autorités. Il faut que les conseillers puissent donner la vérité à leurs excellences, monsieur le ministre, pour qu'ils prennent des mesures drastiques pour pouvoir éradiquer cette fraude. Parce qu'il a dit que le ministre veut doubler, n'est-ce pas, les recettes. Mais moi, je dirais que si on travaille convenablement, les recettes du trésor public pourraient même décupler. Donc, il y a lieu, n'est-ce pas, de mettre un peu de l'ordre. À l'Est, moi, j'étais à Bukavu, j'étais, n'est-ce pas, à cette frontière là-bas. Il y a des responsables qui s'accaparent, n'est-ce pas, de certaines marchandises. On dit que cette marchandise appartient à tel chef. Donc là, monsieur, c'est du désordre. Il faut que le nouveau ministre prenne les choses au sérieux, espérons-le, mais nous pensons que c'est tout se situe au niveau du discours.
Merci à Tatine Songani, un mot hein, sur comment le bilan par rapport au l'état des lieux par rapport aux postes douaniers à travers le pays.
Je crois que de façon générale, il y a moins de fraude à l'ouest qu'à l'est. Et puis, il faut noter qu'en matière douanière, il y a trois principales sortes de fraudes qui peuvent être faites. Il y a la sous-évaluation, la fausse dénomination ou les non déclarés. Mais je voudrais vous dire que quand vous prenez des postes comme Alitouri, à l'Est, hein, Kassindi, Chacha, Beni, mais la douane, il n'y a pratiquement pas de douane là-bas. Moi, j'ai été effectué une mission l'année passée, par exemple, à Sidi Baraka. Il y a un général là-bas qui s'appelle Doumia et qui s'est carrément institué en douane. Il perçoit les droits de douane pour son propre compte. Il n'y a pas de douane à l'Est. Et je voudrais aussi signaler quand même que...
nous avons convenu de ne pas citer...
Malheureusement, pour nous, je crois que ce n'est pas mauvais, parce qu'il faut quand même que ceux qui se livrent à ce genre de pratiques arrêtent. Je voudrais dire que, quels sont les critères qui sont utilisés pour affecter des gens à des postes clés de la douane? Malheureusement, souvent, c'est le clientélisme, c'est l'amitié, c'est le lien de famille, c'est la capacité à retourner de l'argent à ceux qui affectent, notamment aux autorités douanières et peut-être ministérielles. Il faut que ça cesse. Il faut que les critères soient des critères de rigueur, des critères de compétence, des critères de sérieux. Donc, je crois qu'il faut, c'est tout un travail de révolutionner la mentalité, pas seulement des douaniers, mais des dirigeants aussi.
Voilà, nous allons prendre une autre vague des réactions des auditeurs avant d'aborder la solution. Que faut-il faire pour mettre fin à la fraude? Yves Loubouli de Kinshasa, je suis d'accord avec la maximisation des recettes car elle doit permettre à notre pays d'être effectivement indépendant. Toutefois, il faut améliorer les conditions des agents de la DGDA, sinon la tentation sera permanente et finira par l'emporter sur le patriotisme. Docteur Michel Mouvou dit de Bruxelles en Belgique, la fraude dans les services douaniers en RDC est très bien connue du public. Ce qui nous intéresse présentement, c'est de connaître les sanctions prises à l'endroit des coupables ainsi que les mesures d'encadrement pour éviter cette fuite de capitaux. Par ailleurs, le ministre doit savoir que ces fraudes se font en réseau et le plus souvent avec l'appui des autorités politico-administratives. Ingénieur Tchamimba Simon de Liège en Belgique, la dénonciation du ministre est un non-événement car il dit ce qui est connu et se fait chaque jour au vu et au su de tout le monde. Ces magouilles sont orchestrées soit par les hommes qui sont au pouvoir à partir des commissions qu'ils perçoivent directement ou à travers leurs associés. Je pense que le plus grand problème de la lutte contre la corruption et la fraude est l'amélioration des conditions de travail des fonctionnaires et l'application de la loi. Raymond Kassangala de Kinshasa, nous espérons que le ministre des Finances, Matata Ponyo, ira jusqu'au bout. Il y a eu avant lui des mesures prises par des autorités, mais au fil du temps, ça relâche et on revient à la case de départ. Édouard Django de Bruxelles en Belgique, la décision du ministre Matata Ponyo est louable car l'argent du pays doit rentrer dans les caisses de l'État. Cependant, le ministre des Finances devrait penser à mieux repartir cet argent pour que tout le monde en bénéficie. Outaïbabi de Bounia en province orientale, les fraudes observées actuellement dans les frontières sont la cause de la mauvaise condition de travail. La solution serait de songer à améliorer les salaires des agents. Monsieur le conseiller Gabriel Moïpou, que faut-il finalement pour mettre fin à la corruption? Il faudrait que le ministre sensibilise les autorités administratives, politico-administratives, comme nous avons entendu ici. Ça devrait plutôt commencer par là, n'est-ce pas?
Je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que pour mettre fin à la fraude, il faut d'abord mettre l'homme au centre de l'action. Et je l'ai dit, que pour que l'homme puisse mieux se comporter, pour que l'homme ne soit pas complice de la fraude, il y a d'abord un effort de sensibilisation, un effort de moralisation. Mais aussi, il faut améliorer les conditions, comme l'ont dit plusieurs auditeurs.
Mais est-ce que ça sera facile de bouger tout ce réseau, ce système qui existe avec des autorités politiques ou administratives?
Nous avons dit, et nous le confirmons, qu'au mois de mai, au début du mois prochain, il y aura un lancement de la campagne sur les civismes fiscales, et vous allez voir que ce sont les autorités au plus haut niveau du pays qui vont lancer cette opération. Et nous pensons que cela va pousser toutes les autorités aujourd'hui à pouvoir, n'est-ce pas, s'impliquer dans la démarche.
Alors,
non seulement s'il y a la sensibilisation, nous avons dit, s'agissant de l'homme, qu'il faut renforcer les sanctions positives et négatives. C'est-à-dire que les personnes qui se comportent mal, on doit les sanctionner négativement, celles qui se comportent correctement doivent être encouragées. Et ça, ce sont les premières mesures. Mais évidemment, il y a d'autres mesures sur le plan technique qui peuvent être prises. Sur le plan des infrastructures, comme nous l'avons dit notamment à Kassoumbalessa, c'est question de pouvoir canaliser toutes les marchandises vers les entrepôts et les guichets uniques de Kassoumbalessa pour éviter qu'il y ait de fraude à ce niveau-là.
Oscar Rachidi Akida, que faut-il d'après vous pour mettre fin à cette gangrène qu'est la fraude, la corruption?
Pour mettre fin, n'est-ce pas, à cette pratique qui est honteuse pour nous, il faut qu'il y ait d'abord une volonté politique des dirigeants. C'est l'essentiel. On ne peut pas dire sensibiliser. Vous allez sensibiliser quelqu'un qui a faim. Il faut qu'il y ait une volonté politique de l'autorité. Si l'autorité est impliquée dans la corruption, elle est impliquée dans la fraude, dans toutes ces basses besognes, comment vous allez sensibiliser celui qui ne prend pas une décision, c'est-à-dire un agent de l'OFIDA? Commencez par le changement de mentalité de l'autorité politique. Parce que c'est de là que vient tout. Parce que toutes les décisions qui tombent viennent d'où? Ça vient des autorités politiques, des autorités qui dirigent ces pays. En Europe et un peu partout dans les pays civilisés, ce sont les autorités qui donnent des lois et qui respectent ces lois. Mais si c'est nous, on peut ériger des lois, mais on ne respecte pas ces lois. Nous les voyons. Aujourd'hui, on peut, n'est-ce pas, voter une loi au Parlement, demain on la bafoue. Donc, commençons par là, changement de mentalité et une volonté politique des autorités. Et ensuite, là, on va maintenant chercher comment changer les conditions de ceux qui travaillent, notamment nos agents de l'OFIDA et les fonctionnaires de l'État. Un peu partout, on ne peut pas voir seulement l'OFIDA, mais on voit l'administration. Aujourd'hui, pourquoi notre pays reste dans les bouffes? Pourquoi? C'est parce que les investisseurs sérieux ne viennent pas, parce qu'ils savent que le Congo, c'est un pays à haut risque, parce que la corruption dépasse tous les degrés.
Merci, imaginable. Merci Rachidi Akida. Tatine Songani, que faut-il pour mettre fin à la corruption, à la fraude?
Très bonne question. Mais avant de répondre, je voudrais juste poser deux questions. Depuis quand maximise-t-on les recettes? Où vont les recettes qui sont ainsi maximisées? C'est là que se trouve la corruption. À mon avis, pour résoudre ce problème, c'est une seule chose, pas deux. La fin de l'impunité. Mais simplement, la fin de l'impunité doit commencer au sommet. Vous savez, cette histoire de fraude, ça dépasse complètement le cadre de la douane. Complètement. Il faut une implication des plus hautes autorités de ce pays. Sans cela, à mon avis, rien ne marchera parce que ce mal est connu depuis longtemps.
Un mot, monsieur le conseiller, en guise de conclusion.
Oui, je crois que c'est comme je l'ai dit, pour lutter contre la fraude, on doit mettre l'homme au centre de l'action. Et pour le faire, il faut, comme on l'a dit, une volonté politique, mais aussi moraliser, sensibiliser et sanctionner.
Rachidi Akida, un mot également pour conclure.
J'insiste encore sur la volonté politique et changer et améliorer les conditions des fonctionnaires.
Merci, fin de cette émission. Merci à vous, nos invités, ainsi qu'à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Kevin Couté, Guy Maté, Samuel Kachak et Aimé Kamoua, notre stagiaire, vous ont préparé cette émission sous la coordination rédactionnelle de Martin Sebujangwe. Alain Goy était à la mise en onde sous la supervision technique de Patrick Kiasongwa. Alain Irung, j'étais devant ce micro. Je vous ai présenté cette émission. Au revoir et bon suite de programme sur Radio Capi.
Oh,